États, les États de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Non, cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bienvenue dans votre numéro du mois de juin de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors ce mois-ci, dans Scène de vie, vie de scène, nous allons prendre le temps de nous pencher sur ce qui fait une petite partie de la vie culturelle du mois de juin, parce qu'elle est assez riche sur le mois de juin. Nous sommes en pleine saison. Donc bien entendu, notre tour d'horizon des festivités sera forcément très exhaustif. Au sommaire de cette émission pour ce mois-ci.
Nous évoquons le festival Orgue et Musique Sacrée, actuellement sur Évreux à la cathédrale Notre-Dame. Et nous avons comme invités Odile Jutten et Viviane Loriot, toutes deux organistes, qui nous parleront de ce festival. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Cécile, ensuite.
Ensuite, on accueillera Alexandre Beublewou de la compagnie Lexanto, puisqu'ils sont de retour dans les parages, installés au château de la Musse à Saint-Sébastien-de-Morsan pour une nouvelle version de Plastique.
Voilà, nous aurons l'occasion de nous arrêter sur cette création en particulier.
Exactement.
Nous aborderons également la saison des festivals, des événements qui fourmillent comme ça sur cette fin de mois de juin.
Oui, et ils sont assez nombreux et parfois dans des communes que l'on découvre justement à l'occasion de ces festivités.
Mais pour commencer cette émission, nous n'y couperons pas pour la dernière de la saison 2013-2014. Nous écouterons une captation de son, un moment de vie.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, brothers and sisters, bienvenue et excusez-moi. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce to you tonight, direct from the United States of America, six wonders of the burlesque world. Vous êtes prêts?
Oui!
Vous êtes vraiment prêts?
Oui!
All right, come on! We come a long way! And what do we want? We want to get it on! So let's get ready to get it up for the Cavalier New Burlesque! Please, put your hands together!
Alors, Cécile, qu'est-ce que nous écoutions? Peut-être étais-tu en voyage aux États-Unis, non?
Pas tout à fait, ou en tout cas les États-Unis sont particulièrement proches cette année puisqu'on était en fait au Cadran, dans la grande salle du Cadran. C'était une soirée scène nationale et une soirée, comment dire, sexy, drôle surtout, avec le cabaret New Burlesque. Je le ferai pas aussi bien que lui. Voilà, c'était le 27 mai dernier. Une très belle surprise, un très très beau moment. Le public ravi, l'équipe de la scène nationale aussi, parce que bon, on a vraiment ri sur cette soirée-là. Et puis surtout, on a vu un très très joli show, voilà, qui sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de faire, j'ai envie de dire.
Oui, et puis c'était beau de voir ces corps de femmes pulpeuses, mais totalement assumées sur le plateau et voilà, vrai. C'était du vrai show américain. Il y avait les tendances un peu de l'effeuillage des années 50, glamour, mais avec aussi des résonances à aujourd'hui. Non, du vrai show à l'américaine, mais dans le sens pas la grosse production, c'était vraiment le show comme on peut le voir dans certaines villes américaines, quoi. C'est voilà. De l'authentique.
Et un public en délire.
Très bien, nous passons à la première pause musicale. Nathalie, tu nous as ramené quelque chose d'assez récent là.
Oui, une avant-première, c'est l'extrait actuel du dernier album des Black Keys, Fever. Voilà, après El Camino, c'est l'album attendu là du mois de juin. Donc on se l'écoute avec Fever. Black Keys Fever.
C'est exactement ça, Nathalie. Merci en tout cas de partager ce morceau frais avec nous.
Oui, c'est un plaisir. Alors, Festival Orgue et Musique Sacrée à Évreux. Bonjour Odile Jutten, vous êtes l'organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux et vous intervenez notamment dans plusieurs concerts de la programmation du festival. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Viviane Loriot, vous êtes vous également organiste, professeure au CRR de Paris et chef de chœur pour le spectacle et le conte musical La Grande Machine et Les Enfants Perdus. Alors, bonjour Viviane, merci bonjour. D'être avec nous. Je rappelle que le festival Orgue et Musique Sacrée, c'est la 6e édition. Et ce festival a été créé pour valoriser l'instrument, l'orgue, le nouvel orgue de la cathédrale d'Évreux, qui était un événement, puisqu'il est assez rarissime d'avoir une telle création, une telle œuvre aujourd'hui, peut-être en France. Enfin voilà, c'était exceptionnel de construire un orgue contemporain pour une cathédrale et pour une ville de 50 000 habitants. Donc.
Disons que d'une part, effectivement, c'est un événement en soi de construire un orgue de cette importance, un orgue contemporain. Mm-hmm. Dans une cathédrale, c'est le premier instrument contemporain du 21e siècle dans une cathédrale française. Mm-hmm. Et en plus, le choix esthétique a été fait de telle sorte qu'on a à la fois une œuvre d'art visuellement et au niveau sonore. Donc c'est un double challenge et une double réussite.
Oui, parce que quand on rentre dans la cathédrale d'Évreux, on ne peut pas le manquer. Il s'impose par sa taille, mais aussi par ses couleurs. C'est ce qui surprend aussi, il y a de la couleur, il y a du relief, il y a du volume. C'est un très très bel, on va dire, objet artistique même de création.
C'est un instrument qui a été dessiné et conçu par un architecte, donc Bruno de Caris, qui a énormément réfléchi sur ce que c'était que cette architecture de cathédrale. Et il a fait aussi des liens avec, le symbolisme du Moyen-Âge et beaucoup d'autres choses qui sont liées à ce type de bâtiment.
Sur ce type d'instrument, on voit bien que c'est des réalisations assez énormes dans un lieu assez particulier, avec une acoustique également très particulière. Moi, j'ai cette sensation que on est quasiment sur du vivant quand on est sur des instruments de cette taille, sur des lieux de résonance assez particuliers. Moi, j'ai cette sensation d'instrument vivant. Je ne sais pas si vous ressentez les choses comme ça.
Ah, c'est tout à fait vrai. Je pense que là, le facteur d'orgue qui a conçu cet instrument, Pascal Coirin le dirait encore beaucoup mieux que moi, mais un instrument est tellement tributaire de l'espace dans lequel il s'exprime, et nous sommes nous-mêmes, attentifs à la fois à la présence qu'il y a dans la cathédrale, au lieu, à ce qui se passe dans le lieu en même temps, et effectivement, nous avons sans arrêt des surprises sur la façon dont l'orgue va sonner, s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait froid, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte.
Oui, puis c'est un instrument qui respire, enfin, c'est du souffle.
Oui, bien sûr.
Dans la dimension vivante, c'est vrai que c'est presque. Oui, tu as raison.
Et oui, c'est à la fois une grande machine. Comme le compositeur du conte et l'écrivain l'ont bien ressenti eux-mêmes, sans être vraiment proches de l'instrument. Ils ont été approchés des orgues, ils se sont rendus compte de ça. C'est à la fois une grande machine, en même temps, il y a ce souffle
qui traverse. Alors justement, l'actualité d'aujourd'hui, puisqu'on peut le dire, c'est la grande machine et les enfants perdus. Donc vous sortez, on peut dire, de la représentation de ce matin en présence d'enfants d'Évreux. Vous pouvez nous parler un peu de ce projet, parce que c'est vraiment un projet de création de A à Z. C'était une commande sur un texte pour un jeune public. C'est important de souligner que dans la programmation aussi du festival, il y a la dimension de sensibilisation du jeune public à l'instrument et au répertoire, à travers notamment la création d'un spectacle
Pour les enfants, pour les adressé enfants. Aux enfants, oui. Et puis la création d'une maîtrise, en fait, d'un cœur d'enfant pour ce spectacle. Est-ce que vous pouvez... Comment l'idée est venue, d'où ça vient, et puis après, comment on met tout ça en œuvre, parce que c'est assez long quand même.
Alors la création, en fait, c'est une commande effectivement de l'association Amorce à deux personnes, donc d'une part l'écrivain Pierre Péju et le compositeur Thierry Muller, qui ont donc travaillé ensemble pour concevoir ce conte. Et alors la partie musicale, là je pense que Viviane va être le mieux placée pour en parler. C'est une grande aventure d'avoir pu trouver des enfants sur Évreux pour monter ce projet.
Voilà, alors effectivement Thierry Muller a composé une œuvre qui doit être interprétée par un groupe d'enfants. Sur la cathédrale, il n'y avait pas de maîtrise à Évreux, donc l'idée est venue de faire des auditions pour essayer de rassembler une quinzaine ou une dizaine d'enfants prêts à vivre l'aventure. Et il fallait qu'ils s'engagent quand même sur une longue période, sur les trois représentations, sur les répétitions, même pendant le temps scolaire, ce qui n'est pas facile. Mmh. Et donc, en début d'année, j'ai proposé de lancer ce projet avec un ami très très cher qui est basé sur le sud de la France, tout à côté, qui s'occupe de opéra junior à l'opéra de Montpellier, qui s'occupe donc d'enfants entre 10 ans et 25 ans et qui font des productions continuellement. Donc il est venu faire des auditions. Et on s'est retrouvés avec 15 enfants de plusieurs établissements scolaires. Et en particulier du collège Saint-François de Sales. Donc à partir de là, on a commencé les répétitions. Et comme toujours, il y a des enfants qui tiennent pas longtemps, qui disent « Ah non, c'est trop bon ». Donc maintenant, on s'est retrouvés avec 10 enfants absolument motivés et qui, je crois, ont fait leur preuve hier soir. Et ce matin, et voilà, vraiment je les félicite parce que je suis admirative de ce qu'ils ont réussi à faire, étant donné qu'ils n'étaient jamais montés sur scène, ils n'avaient jamais chanté par cœur, c'est toute une histoire pour eux, et j'espère vraiment que ça pourra continuer d'une manière ou d'une autre, et que évidemment de 10 enfants, on passera à 15, puis à 20.
Et justement, plus généralement, pour poursuivre l'histoire, y a des actions qui vont visiblement être mises en place pour la découverte de l'orgue. Alors peut-être, effectivement, la suite de la maîtrise et que ce cœur enfle, j'ai envie de dire, les années qui suivent, mais y a d'autres actions aussi en parallèle, visiblement, qui vont être mises en place en partenariat avec l'inspection académique.
Oui, là, effectivement, il y a eu un contact pendant la période de répétition, entre l'association et puis des personnes de l'inspection académique, de manière à prévoir les années à venir, le rayonnement de ce conte, avec un travail en classe qui soit fait et que des enfants des classes primaires puissent eux-mêmes apprendre certaines chansons, de manière à ce que le conte puisse être diffusé dans le département, et on va aussi faire des démarches pour la région. Parce que c'est une belle histoire, c'est un conte où justement il y a une sorte d'alchimie entre les enfants qui chantent, le récitant, l'orgue. Donc, c'est une histoire en plus. Alors, le titre de notre festival peut induire en erreur, parce que orgue et musique sacrée, mais nous avons des concerts qui ne sont pas du tout de musique sacrée. Ce conte n'a rien d'un conte sacré. Hein, c'est une histoire d'enfants qui suivent la guerre et qui sont dans une forêt, qui découvrent une machine mystérieuse. Voilà.
Oui, c'est, on voulait rebondir justement sur la programmation globale du festival. C'est vrai. Orgue et musique sacrée, mais en regardant le programme, c'est vraiment un contenu assez éclectique, puisqu'on l'orgue est au cœur de plusieurs genres artistiques proposés. Et je note notamment, enfin moi, ce qui m'a intriguée, c'est la passion selon Jeanne d'Arc de Dreyer, donc un ciné-concert dans la cathédrale. Donc voilà, on est vraiment sur une des propositions un peu atypiques, mais intéressantes et surprenantes sur un festival d'orgue. Donc l'idée de ce concert, de ce ciné-concert, je crois que c'est la première fois qu'on va projeter un film dans une cathédrale. Pour Évreux.
Donc c'est la première fois à Évreux. Bon, ça s'est pratiqué dans bien d'autres endroits. Mmh. C'est-à-dire que on reprend la tradition des films muets qui sont mis en musique par des musiciens qui, à l'époque, souvent improvisaient, pas forcément des organistes. D'ailleurs, ça se faisait avec d'autres instruments, des pianistes ou même des ensembles aussi qui jouaient des pièces spécialement écrites pour l'occasion. Alors, ce film de Dreyer, bon, c'est quand même La Passion de Jeanne d'Arc. Là, on reste dans un cadre, une histoire sacrée, on va dire. Mais c'est un film culte, parce que c'est un film magnifique sur le plan de la, la prise de vue, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un film qui, à l'origine, était prévu pour ne pas être muet, mais il y a eu un certain nombre de déboires qui font que le film, en fait, est muet. Alors ça, c'est une expérience, je pense, qui va effectivement intéresser à la fois les cinéphiles et les amateurs d'orgue aussi, et puis les gens qui veulent voir qu'est-ce que c'est qu'improviser sur un film. C'est une expérience assez particulière. Il faut à la fois, comment dire, être réceptif à ce qui se passe et en même temps ne pas envahir par la musique l'image qui elle-même est très très prenante. Je veux dire, c'est un film qui est à la fois tragique, magnifique sur le plan visuel. J'ai des amis qui m'ont dit, oh là là, je prévois tous mes Kleenex pour le film. C'est très émouvant, c'est très impressionnant, mais c'est un magnifique film.
Et puis vous allez plus que, enfin, il n'y a pas de partition, là c'est vraiment de l'improvisation, vous êtes porté par le film, le texte, et vous réagissez en fin de compte.
Voilà, en fait, alors il y a plusieurs façons de faire, il y a des organismes qui vont préparer, se dire voilà, tel endroit, je vais faire ci, je vais faire ça, ils ont une sorte de synopsis, et moi je vais au contraire me laisser porter. Donc je prévois le minimum de choses, je suis entraînée bien sûr, de façon, déjà technique, et puis j'ai regardé le film de nombreuses fois. Je vois aussi sur la durée, il y a des séquences dans ce film, mais je ne prépare rien de précis. C'est vraiment de l'invention sur le moment.
Et une question, parce que d'ordre technique, vous êtes, vous, dans l'orgue, placé dans l'orgue, le film sera projeté en bas, ou vous avez une rétroprojection du film à côté de vous, dans l'orgue, voilà, techniquement, comment ça se passe? Parce que vous n'êtes pas en salle, mais l'écran, je pense, va être posé devant l'orgue. Donc, c'est aussi un système technique de rediffusion à votre portée.
Alors, en fait, j'aurai un petit écran sur le pupitre qui, par le biais d'une caméra, me reprojettera le grand écran du bas sur une petite surface d'écran, 20 cm, 30 cm.
D'accord.
J'aurais souhaité juste revenir un petit instant sur l'orgue. Moi, cet instrument me passionne, m'étonne par son côté gigantesque d'une, et puis par son système de fonctionnement. Il existe plusieurs types d'orgues, j'imagine. J'ai l'image, moi, vous savez, des orgues, donc avec le clavier, puis les tirettes, les choses comme ça. Comment fonctionne celui d'Evreux pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur l'espace de jeu?
Alors celui d'Evreux, il a plusieurs types de technologies, en fait. Alors, sur le plan sonore, donc l'ancrage technologique, c'est le 18e siècle, l'âge d'or de l'orgue, surtout en France. Dom Bedos, pour citer un personnage célèbre chez les organistes et facteurs d'orgue. Au niveau de la mécanique des touches sur lesquelles on pose nos doigts, nous sommes assistés par un système qui a été conçu au 19e siècle. Et pour toutes les tirettes dont vous parlez, qui s'appellent les jeux, ça c'est une technologie contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ordinateur de bord qui permet de pré-enregistrer. Et ensuite, on appuie sur des boutons et ça permet d'avoir les combinaisons que nous avons choisies.
Ça, c'est numérique.
Oui, c'est ça, voilà. Nous avons un ordinateur.
Je suis presque triste. C'était presque un mythe, cette histoire pour moi. Mais j'imagine que sur le jeu...
Il existe. Vous allez à Saint-Aurin, donc dans l'autre église tout près de la cathédrale, là, vous aurez des tirettes manuelles. Hein. Mais sur un orgue de cathédrale de cette taille-là, il y a quand même 53 justement, registres à tirer. Et puis, un orgue qui a été vraiment voulu pour jouer de la musique du XXe siècle par le constructeur, le facteur d'orgue. Donc c'est indispensable d'avoir ce genre de commodité.
Oui, parce qu'il me semble qu'il existe plusieurs types d'orgues.
Oui, oui, il y a des...
Les orgues baroques, les orgues plutôt la Renaissance. Enfin, l'instrument a évolué aussi en fonction
Il y a autant d'instruments que de pays et puis que de périodes de l'histoire. Et nous avons aussi, l'année prochaine, on peut peut-être anticiper, Viviane va faire un concert, plusieurs concerts, avec un orgue de Barbarie, donc, parce qu'il y a aussi des autres petits instruments qui
en
sont...
En duo, hein, orgue de tribune et orgue de Barbarie.
Donc l'orgue, effectivement, est multiple, dans sa taille et dans ses fonctionnements.
Alors justement, je vous écoutais parler et décrire l'orgue d'Evreux, un orgue conçu pour la musique du 20e siècle, et je dirais aussi celle du 21e siècle. Quelle est un peu la création aujourd'hui, la composition faite autour de cet instrument? Est-ce que les compositeurs s'en emparent? Est-ce que c'est intégré au niveau de formation? Enfin voilà, comment ça vit?
Mais en fait,
quel est le nouveau répertoire en fin de compte?
Ben, c'est assez spectaculaire parce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, on avait l'impression que les compositeurs n'étaient pas très intéressés par l'orgue. Et là, depuis quand même maintenant assez peu de temps, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent pour l'orgue, des jeunes compositeurs qui sont organistes ou pas. On a un répertoire qui se développe considérablement. Et l'orgue est très souvent aussi utilisé en relation avec des nouvelles technologies, en relation avec d'autres instruments, en relation avec d'autres arts. Donc, l'année dernière, il y a eu un concert danse et orgue. Que Viviane a joué. On a aussi une formation orgue quatre mains.
Oui, qui va se donner le 17 voilà. octobre. Donc à la cathédrale avec l'oiseau de feu de Stravinsky.
On a aussi des programmes à deux orgues. Enfin, donc l'orgue se décline de tas de façons différentes. Orgue et électroacoustique, orgue et machinerie diverse, orgue et projection de vidéo. C'est l'instrument qui, dans l'imaginaire de beaucoup de créateurs, produit beaucoup d'idées, en fait.
Source de création. Bah.
Donc, l'année prochaine, on a un projet donc, de faire une performance avec un récit de l'orgue improvisé, une danseuse, un récitant, chanteur, et des projections vidéo avec de l'improvisation en temps réel sur tous ces arts-là.
Et une question aussi les festivals d'orgue. Est-ce que en France, il existe d'autres festivals majeurs d'orgue connus ou sur lesquels on se retrouve
toute l'année partout.
Beaucoup.
Non, parce sur que justement, tous les thèmes, l'émission le aujourd'hui Bach, est là justement pour de ce qui existe autour de l'orgue.
Oh là là, on aurait dû faire une liste.
Ça serait très dur de ne vexer personne.
Si on là, vraiment.
Oui, enfin voilà, donc ça a une actualité sur le territoire. Avec de
c'est souvent
festivals.
Autour d'un orgue particulier, comme à Évreux, cet orgue est absolument exceptionnel. Donc c'est normal qu'il y ait un festival autour de cet instrument.
Mais finalement, c'est l'instrument qui crée l'événement autour. Enfin, les gens ont envie d'organiser l'événement de l'instrument.
Bien sûr.
Effectivement, c'est pas comme sur un festival de jazz où chacun se déplace avec son instrument. Là, on peut pas se déplacer avec l'instrument. De toute façon, il est lié
difficile.
Au lieu, quoi. Bah oui.
Oui, oui, un instrument.
Si, l'orgue de
difficile.
Barbarie peut se déplacer, mais pas celui-là.
Oui, non, pas l'orgue de la cathédrale, effectivement.
Eh bien, merci à vous, Viviane et Odile, de nous avoir parlé de cet instrument et d'y être allé un petit peu plus de l'intérieur.
Je propose une pause musicale si vous le voulez bien. Alors, nous étions dans le doute de savoir si nous aurions le temps de passer le duo Mong, qui a été une découverte pour moi lors du Festival du Caméléon. Je saisis donc l'opportunité d'envoyer le morceau que j'avais préparé pour l'occasion. Mong avec le morceau Dasun. Orgue, un groupe que j'ai, pour ma part en tout cas, découvert il y a une semaine à l'occasion du festival Les Soirées du Caméléon sur Val-de-Reuil. Alors la particularité de Duo Mong, c'est qu'en fait, une des deux musiciennes joue avec ce qu'on appelle une nickel harpa. C'est un instrument traditionnel suédois. Oui, c'est très étonnant. Ça joue avec des touches un petit peu comme c'était les vielles. C'est ça qui joue avec des touches, donc qui joue avec des touches comme une vielle et qui se joue à l'archer.
Voilà, d'accord, c'est un instrument assez
particulier, archer. Exactement. Et de l'autre côté, donc je vais oublier le nom du tambourin qui est particulier. Si elle m'entendait, elle me le jetterait même. En tout cas, voilà, des instruments particuliers et accordéon, plus des voix. Et on entendait là dans ce morceau-là, notamment des techniques de voix particulières.
C'est une formation française.
C'est une formation absolument toulousaine, pour rien vous cacher.
D'accord.
Oui, alors voilà, l'émission se poursuit. Nous venons d'accueillir en plateau Alexandre Bebleu. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Donc vous êtes danseur, chorégraphe, un des directeurs artistiques de la compagnie L'Exanto.
Oui.
Une compagnie qui est installée ici à Évreux depuis 4 ans maintenant, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Voilà, et puis on vous accueille aujourd'hui dans Scène de vie, vie de scène, parce que vous êtes installé depuis quelques mois maintenant au château de la Musse, à Saint-Sébastien-de-Morsan, pour Plastique, le défilé nocturne. Alors, Plastique, le défilé nocturne, c'est peut-être quelque chose qui... un nom, en tout cas, qui va parler à nos auditeurs, parce que même nous, en préparant l'émission, on se l'est dit, mais plastique, ça nous dit quelque chose. Effectivement, ça nous dit quelque chose. Plastique, c'est... le spectacle, j'ai envie de dire, un des spectacles phares de la compagnie L'Exanto, même équipe, même lieu, même nom de spectacle, mais finalement pas même spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ben c'est un spectacle que nous revisitons à chaque fois. En fait, on s'adapte au lieu. Donc c'est vrai que nous travaillons depuis quelques saisons avec la compagnie L'Exanto sur le principe d'installation. Et parallèlement, donc je refais juste un petit récapitulatif, parallèlement, si nous travaillons sur la notion de vêtements, en fait, par le plastique, ça nous a conduit du coup à faire des installations scénographiques entièrement plastiques et donc faire développer tout un travail autour du vêtement. Et donc, pour cette version, en effet, nous sommes donc au château de l'hôpital de la Musse et nous allons nous présenter une nouvelle création. À chaque fois, elle est revisitée. L'esthétique est complètement différente. Cette fois, c'est une esthétique qui est complètement inspirée du lieu. En fait, c'est parti de l'idée, vous savez, quand on se promène un petit peu en forêt, on est bien, on décroche complètement, et puis à un moment, on va tomber sur cette fameuse décharge sauvage, avec des pneus, des plastiques, enfin des choses qui nous ramènent gravement à la réalité. Et Plastique défilé nocturne partirait de là, en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu recréer une forêt à l'intérieur du manoir. Donc c'est un manoir qui baigne encore dans son jus. Il est désaffecté depuis, je sais pas, je dirais peut-être une trentaine d'années. C'était l'ancienne résidence du directeur de l'hôpital de la Musse. Et donc voilà, c'est des tapisseries, des moulures, des boiseries magnifiques, des cheminées. Et donc à l'intérieur de ça, on a recréé une forêt pour essayer de placer le public dans ce contexte-là, en fait. Il est en forêt et on amène le plastique par un défilé, donc par cette création de vêtements. Et voilà, j'ai vraiment voulu travailler sur la créature, en fait, cette année. Donc, c'est-à-dire que c'est presque des corps mutants qui ont été contaminés par la matière. Et donc, ils donnent à donner un univers complètement décalé, finalement, et assez sympathique, enfin, j'imagine.
On est vraiment sur l'idée d'une installation, d'une performance.
Oui.
Ça va au-delà de la danse, j'ai envie de dire. Et puis, même au-delà du vêtement, ça va beaucoup plus loin que tout ça, en fait.
Mais en fait, je l'ai pensé comme presque un travail photographique en mouvement, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une fusion de genres où on a un défilé, mais c'est pas proprement dit un défilé, où on va retrouver des jeunes femmes sur un podium qui arrivent et qui repartent. On est vraiment sur... des personnages qui ont chacun des couleurs différentes, parfois drôles, parfois un peu plus angoissants, parfois frisant la folie, des choses qui peuvent être en retenue ou complètement expansives. Le défilé est ponctué aussi de performances dansées, de danse-théâtre ou de, voilà, pour ramener aussi encore plus de, pour ramener encore du personnage à l'intérieur de ça. Mais si je devais le résumer, en fait, ce serait plus un voyage photographique, en fait, dans une scénographie qui a été très développée et qui invite au voyage, je pense.
Dans un univers complètement plastique. Moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois.
Et ouais. C'est le contraste, justement, cette image dont je parlais au début, qui est intéressante, en fait, de voir ces créatures en plastique qui surgissent des bois, en fait. Et finalement, le spectateur est un peu pris en otage de ça, et c'est intéressant.
Mais
ça ne fait pas peur aux enfants, je précise, ça va.
J'aimerais revenir sur, finalement, le concept plastique. J'ai l'impression que ça comme un concept. Je sais pas, c'est dans votre démarche artistique, est-ce que ce plastique-là, il peut se transposer ailleurs que dans le château de la Muse? Est-ce que c'est toujours des lieux un peu improbables?
Ce sont souvent des lieux improbables.
Il y a un peu de mystère. Enfin, comme l'idée de la forêt. Enfin, moi, je retiens l'idée de la forêt. C'est un peu, vous nous emmenez dans des mondes un peu. On n'a pas forcément l'habitude d'y aller, on a peur d'y aller, et puis on tombe sur quelque chose de peut-être des fois un peu fantasmagorique, je sais pas. moi il y a deux questions, c'est l'idée de plastique, c'est vraiment ce concept, quelque chose que vous avez envie de développer parce que vous gardez le même intitulé, mais voilà, il y a
revisiter
à chaque fois. Il n'y a pas de plastique 1, de plastique 2, de plastique 3, c'est plastique à chaque fois.
Oui, c'est ça. Donc parfois ça va être plus de la performance, parfois du défilé, parfois c'est un mix de tout ça. En fait, on se base complètement sur le lieu. Donc le château de la Muse, comme on l'appelle là-bas, et cerné de forêt justement. Donc j'ai voulu, par rapport à ce lieu, en travaillant scénographiquement sur ce lieu, rentrer la forêt dans le lieu. Mais c'est vrai qu'après, on aurait travaillé dans une usine ou autre part, la scénographie aurait complètement changé, le spectacle aussi en fait. C'est-à-dire que pour ce spectacle, tout part de l'installation et du lieu, et à l'intérieur de ça, après, je place mes personnages et mes modes d'expression. Donc, soit la danse, soit la mode, soit une expo, soit voilà. Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins une géométrie variable et qui change à chaque fois, en fait, au gré du lieu et de mon inspiration, finalement.
Il y a une façon aussi d'aborder le spectateur peut-être de manière particulière, en utilisant le lieu comme lieu d'expression, finalement, ça oblige le spectateur à être actif dans son rôle, de se balader éventuellement, comment ça se passe du coup, cette appropriation par le spectateur, justement.
D'accord. Il y a eu parfois des principes de déambulation pour pouvoir prendre en compte tout le lieu, que le spectateur, justement, se promène et tombe soit sur des performances qui n'ont pas forcément été annoncées, mais comme dans une espèce de petite vie parallèle, de société secrète. et pour cette édition, en fait, c'est pareil, il y a un petit principe de circulation. Donc ça commence au rez-de-chaussée avec la grande partie défilée, et ensuite les personnes sont invitées donc à suivre les personnages aux étages. Voilà, il y a aussi un petit bar sympathique.
Ça, c'est pour le côté convivial.
Du coup, ça oblige à être acteur quand on est spectateur. Finalement, c'est pas on s'installe, ça se passe et on s'en va. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a, sans que ce soit un effort de participation concrète, mais c'est, il y a quand même une part du spectateur dans ce que vous proposez.
Ils ont pu être acteurs sur d'autres éditions où ils ont vraiment participé aux performances et ils ont été pris pour participer à des performances. Là, je dirais qu'ils sont plus immergés, en fait, vraiment au cœur du spectacle, sans être acteurs. Enfin, je serais pas dans cette notion-là pour cette édition-là, en fait. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment dans la scène, finalement.
Et on parle du spectateur. Moi, je me demandais aussi, finalement, et les danseurs au milieu de tout ça, qu'est-ce que c'est leur rôle ?
Leur rôle, c'est de porter un projet et d'y croire avec nous. Donc on les sensibilise complètement à l'action. On travaille souvent avec des amateurs, ça dépend où on s'installe. C'est vrai qu'il y a 2 ans, nous étions à l'abbatiale de Bernay. On a fait un casting sauvage là-bas et du coup, ça a permis à des amateurs locaux et passionnés de pouvoir participer au spectacle. Ça veut dire qu'on fait une petite formation, initiation au spectacle, on les sensibilise et du coup, après, hop, ça participe au spectacle, ils rentrent dans notre univers.
Et donc amateurs et professionnels, du coup.
C'est ça, c'est un mix. Et pour cette édition-là, en fait, ce sont des amateurs et moi-même qui participe un petit peu. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour le casting, pour le spectacle, donc nous recrutons encore des gens s'ils sont intéressés pour défiler. N'hésitez pas à nous contacter, mais j'y viendrai après.
Voilà. Mais moi, c'était surtout comment la danse, elle arrive au milieu de cette installation. Comment, quand on est danseur et qu'on arrive dans un tel univers, une telle installation, comment vous amenez vos danseurs à se mettre en mouvement, en fait, au milieu de l'installation? Voilà. Ou est-ce que c'est un aller-retour, finalement, entre la danse et l'installation plastique et les costumes? Est-ce que les costumes induisent le mouvement? Voilà, il y a tout ça.
Commence toujours par l'installation, en fait. C'est la première chose sur laquelle on travaille. Donc voilà, c'est à peu près, moi, c'était un mois et demi de travail, en fait, à peu près, bon, seul. Donc ça a été un petit peu long. Et après, on fait découvrir cet espace aux interprètes. Et de là, en fait, ils s'adaptent à l'espace. Nous, évidemment, on a des envies qu'on leur transmet, des qualités de danse ou juste de déplacement aussi, hein, parce que la danse, je la considère vraiment au sens large. Mm-hmm. Pour moi, la danse, c'est une façon de bouger, en fait, plus qu'autre chose. Donc, il n'y a pas d'identité ni contemporaine, ni jazz. Enfin, il y a quand même une veine contemporaine plus importante, car je suis danseur contemporain à la base. Mais on est plus sur une façon de bouger et comment défendre un personnage, en fait. On n'est pas sur une démonstration de danse, on est sur comment la danse peut aider à nourrir un personnage ou une personnalité.
D'accord. Et moi, je reviendrai sur l'œuvre plastique, esthétique, et du coup plastique, avec de la matière plastique. Enfin, ce qui est impressionnant, c'est vraiment un univers très fort, une ligne, et aussi le détournement du plastique que vous pouvez amener. Il y a des fois, on a l'impression que ce n'est pas de plastique, quoi.
C'est
vous le transformez. Mm-hmm. C'est plastique, mais c'est une transformation du plastique.
Ouais, je suis resté un grand enfant et ça fait longtemps que je joue justement à récupérer les matières, à les transformer, à jouer avec tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez troublantes. Bah, j'ai d'ailleurs participé il y a un an à l'Ethical Fashion Show à Genève où on m'a contacté en fait, après avoir vu quelques-unes de mes pièces sur le site internet. Et donc du coup, je suis parti à Genève avec mes valises pour présenter quelques-unes de mes créations, prix du public, etc. Donc oui, et les gens, pareil, là-bas me disaient... on ne croirait pas que c'est du plastique, parce que voilà, c'est une matière très intéressante, parce que du coup, dans le mouvement, elle a des propriétés que le tissu n'a absolument pas, et ça crée des choses presque oniriques ou fantastiques, des matières qui flottent comme ça, c'est vraiment, ça m'éclate, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'on sent vraiment vous emmener dans un imaginaire, voilà, de lieu, d'esthétique, de matière...
C'est compliqué d'en parler finalement. Il faut venir voir, je crois, c'est le plus simple.
Moi, je veux dire que c'est vraiment, ça emporte ailleurs. Vraiment, on est comme l'enfant.
Un voyage.
Ouais, et l'enfant qui rentre qui va s'aventurer dans un lieu. Ok, ça peut faire peur, mais on est attiré. Et puis là, il se passe ce qui se passe, quoi.
Donc, alors, pour l'immersion et le voyage, c'est tous les vendredis et samedis soirs, 20h45, au château de la Musse à Saint-Sébastien-de-Morson. Mm-hmm. Et ce, jusqu'au 5 juillet.
C'est cela.
Réservation fortement conseillée puisque la jauge est réduite. En tout cas, voilà, il n'y a pas une jauge de 100 personnes à chaque fois. Donc, si vous souhaitez venir, réservez un petit mail à la compagnie, c'est ça?
Donc, il y a le site internet www.lexanto.com. Donc, Lexanto, L-E-X-A-N-T-O. Sinon, on est sur Facebook aussi. On a une adresse mail. Compagnie, CIE.lexanto@gmail.com.
Eh bien, voilà. Merci Alexandre.
Ben, je vous remercie.
Du coup, on enchaîne.
On enchaîne.
C'était déjà parti. Ok, très bien.
Avec une acoustique vibe, c'est ça?
Exactement.
On en parle juste après.
Well, I might say Lord is anointed. Lord is a shepherd. And I say give thanks and eyes unto the name of Zambia Manchester Isle, I Selassie, I Joe. Rastafari, I remember, so let them know. All right then, say who feels it, knows it. What goes around that comes forward. If I walk up below them, go lose it. Them with the love is see we lay down in a marble. Say who feels it, knows it. Yes, what goes around that comes forward. If I walk up below them, figure lose it. Them with the love is see we me said the one it me and rise. Me surprise. Get a youth come and go give
sentence for life, come it's a rise, I miss a life. I could a thousand hundred dollar fight. Me say where your feet rise to the sky. Poor people have no limit. The blessing of his majesty elements me come I give it. Free life, no say everyone's one for live it. Foolishness, better you can't live it. Righteousness, when me try, I'm in it. Yeah, so if I were them, I feel no man not go in it. Yo, I can sell us, get the power, I'm a new will be my shepherd. Cause not for them, my evil, I'm in it. That's why me say free my people, oh Jah. Why they want to lock we don't fall? Protect and guide your people to Ethiopia. Babylon me burn your dirty obia. Yeah. The one need them free. All of me soldiers, free my people, oh Jah. Protect and guide us the people to Ethiopia. Babylon me say me hope ya. The fire stop, elements me come up there, me own a pot, own a tan, Babylon dead. Me say you a draw, when me speed the weeks is it's like an earthquake. Real bubba man, the off, he made the earth shake. And that from earth day, hope you no heard me. Appear problems in a them city, man a solve, they serve them. Never I will, better know the Holy Trinity will rust at them a hill. So, no way me not go feel. No way you not feel live them stressing with them dirty paper bill, yo. A King Selassie is real. So be wise and humble, never leave dirty Babylon, come a fool, yo. Who feels it, knows it. What goes around, that comes forward. If I were Babylon, them could lose it. Them would tell off, you see, we lay down in a marble. But who feels it, knows it. What goes around that comes forward. If I want Babylon, them can't lose it. Then with the love you see me, me said the one your name free. My people, oh Jah, why the one feel like we don't fall? Protect and guide all your people to Ethiopia. Babylon, me burn your dirty order. The one need them free. I love me soldiers, free all my people, oh Jah. Protect and guide all your people to Ethiopia. Babylon, me burn your dirty order. The one need them free. My people, oh Jah, why do I feel we don't fall? Protect and guide all my people to Ethiopia. Babylon free all the city, oh Jah, the one need them free. All of me soldiers, free all my people, oh Jah. Protect and guide all your people to Ethiopia. Babylon, me say me hope ya. When me say rise, me say rise. Get a youth come and go and go give thanks for life. Come me say rise, and me say life. I feel a thousand hundred of five.
Elements, Free My People acoustique.
Eh ben merci de cette proposition. Pendant le morceau, Alexandre quittait donc le studio, pris par le temps, il nous saluait, il disait... Ah, il y a quand même une petite précision, pardon, dont on n'a pas parlé durant l'échange, c'est qu'en fait, ça s'adresse à tout public. Ça s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes ou des anciens. Petite précision, voilà, il conseillait
à partir de 8 ans
ou pour public averti.
Voilà, c'est ça.
Vous savez, maintenant, il y a des enfants qui ont l'habitude des spectacles dès leur plus jeune âge.
Exactement.
Et tant mieux.
Voilà.
Voilà, et nous arrivons sur notre dernier plateau, les derniers sujets que nous allons aborder. Nous souhaitions aborder les activités estivales, les festivals qui s'annoncent là à notre porte. Et vous avez vu un peu cette subtilité, parce que dès demain, il y aura le fameux festival Ça sonne à la porte.
Oh, jolie grosse transition.
Œuvre, voilà, grosse œuvre, festival entièrement gratuit. Bien entendu, nous allons pas vous faire la liste de tous les festivals en région, car d'une, ce serait pas hyper intéressant, et deux, ça prendrait un sacré bout de temps quand même. Par contre, nous souhaitions attirer l'attention notamment sur le RIF, le réseau informel des festivals de l'heure, donc qui a maintenant qui s'est équipé d'un site internet mis à jour très régulièrement, sur lequel vous pouvez retrouver l'actualité festivalière des mois à venir, voilà, de tout le département, ouais, des mois à venir. Et alors j'entends déjà des gens qui disent oui, oh, tout le département, c'est pas non plus énorme.
Moi j'ai été vraiment impressionnée justement hier en allant jeter un coup d'œil sur le site du RIF, parce que bah bien sûr il y a les gros festivals qu'on connaît tous, le rock, ça sonne à la porte. Fait partie quand même maintenant des rendez-vous vraiment dans l'esprit des Eurois. Voilà, donc ça, c'est les festivals, on les attend, ils sont là, ils sont prêts. Puis moi, j'en ai découvert d'autres, vraiment, du coup, en allant un peu surfer sur le site du RIF, qui, en tout cas, pour moi, paraissent un peu plus anonymes, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait un petit festival à Saint-André-de-l'Eure qui s'appelait le Festival des Sept Épis. Je crois que c'est la deuxième édition cette année, me semble-t-il.
J'aurais bien dit un peu plus. Mais bon, là, je dis ça comme ça, c'est un peu en l'air hein, quand je le dis.
Mais enfin, en tout cas, festival gratuit également, avec une belle programmation. Deuxième édition. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que j'avais vu. Festival gratuit, je vous disais, programmation plutôt rock. Voilà, pour ça, pour celui-ci, pardon. Et puis aussi, en allant un petit peu plus loin encore avec ma collègue Nathalie... on a découvert, alors celui-ci, il est beaucoup plus tard hein, dans la saison, il est plutôt sur septembre-octobre, le festival Bretelles sans frontières. Tu peux nous en dire deux mots, Nat, de ce petit festival ?
Eh bien, c'est un festival autour de l'accordéon, mais justement pour un peu casser l'image de l'accordéon guinguette et pouvoir aborder les musiques. Ça va aussi bien de la musique klezmer que donc tzigane, mais aussi populaire, les groupes rock. Qui également intègre l'accordéon. Donc oui, ça, je trouvais que ça, donc c'était un joli clin d'œil justement à cet instrument et à son répertoire. Ouais, c'est très actuel.
Complètement. Pour juste en terminer avec le site internet du RIF, c'est que voilà, on se disait combien de festivals. Là, je viens de noter 17 festivals qui vont se dérouler jusqu'au mois d'octobre, là, dans l'heure. Ouais. Voilà, c'est quand même loin d'être rien.
C'est quand même remarquable. Hein.
J'ai l'impression, alors on ne sait pas d'où, si c'est le grand festival majeur, le rock dans tous ses états, qui a fait des petits émules un peu partout, mais c'est vrai que le département de l'heure est un département musique. Extrêmement fort, développé, hein. Ça crée des petits et ça crée surtout de la sortie, faire vivre des artistes locaux, être dans la convivialité de l'été.
Et puis la musique bien sûr, parce que les festivals sont essentiellement musicaux, mais pas que. C'est-à-dire que on remarque aussi de plus en plus les petits festivals qui fleurissent pour le théâtre, la danse, le cirque. Voilà, ils ont toutes les formes de spectacles vivants ont aussi leur festival. Pour n'en citer que deux dans notre coin, on a le festival Les Petites Scènes qui a démarré depuis fin mai et qui va se dérouler jusque fin juin du côté de Louviers. Du côté de la communauté d'agglomération de communes Seine-Eure. Voilà, on donnera les dates tout à l'heure. Et puis Vivacité, qui est quand même le festival historique des arts du cirque à Sotteville-lès-Rouen, fin juin.
Voilà, on a aussi sur on va dire le PST Cap Nord-Est, tout ce qui est autour de la marionnette, avec On va au Pestacle, qui depuis plusieurs années développe aussi le spectacle vivant autour de la marionnette. Donc on peut dire que c'est un territoire extrêmement dynamique.
Et pour conclure, les maisons de quartier également sur le territoire de l'Eure et d'Évreux en particulier proposent bien souvent en fin de saison, en fin d'année, des programmations qui sont souvent doublées des présentations du travail de ces structures dans l'apprentissage. Et je voulais revenir juste là-dessus. Il est important aussi d'aller voir, d'aller assister à ces spectacles où finalement ce ne sont pas forcément des professionnels qui viennent proposer, mais aussi des amateurs qui sont en apprentissage. Alors, on va dire qu'ils sont en apprentissage toute leur vie, bien entendu, mais en tout cas en cours de maîtrise d'instruments. Et là, on est en plein dans la saison de toutes ces présentations. Exactement. Et je pense qu'il ne doit pas avoir un seul quartier bruissien épargné par ces programmations de fin de saison.
Donc, en bref, on terminera l'émission, en se disant la même chose. Soyez curieux, il se passe plein de choses dans l'heure cet été. Allez sur le site du RIF, allez sur le site des structures. Voilà, il y a plein de choses à aller regarder et les festivals fleurissent.
L'émission touche à sa fin. Bah oui, déjà, je vois dans le regard de Nathalie une déception.
Bah, c'est
à
la
cette
dernière
annonce.
Quand même.
C'est la dernière de la saison.
De la saison.
On se retrouve en septembre, c'est sûr.
Mais il y a intérêt, oui. En tout cas, le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris pour le 5 septembre.
Exactement. Vendredi 5 septembre, 12h30, nous serons au même endroit.
Là.
Voilà. Là. Ici.
Ou ailleurs, qui sait.
Oui, ou ailleurs.
Ou ailleurs, qui sait.
C'est vrai, c'est
peut-être
vrai.
Peut-être un extérieur, on ne sait pas. On ne sait pas.
On
ce
y
sera
a
la
goûté,
surprise.
On y a goûté cette année. On va peut-être continuer l'année prochaine.
C'est exactement ça. J'ai même envie de dire, nous y avons goûté la saison précédente. On a confirmé ça durant cette saison.
On poursuit la saison prochaine.
Et on poursuivre.
On poursuit, voilà, c'est ça.
C'est une saveur un peu différente,
ouais,
quand même,
ouais,
les extérieurs.
Ouais. Ah, non, c'est bien. Ouais, ouais.
Donc voilà, donc 5 septembre, le rendez-vous est pris exactement. L'agenda, j'ai envie de proposer aux auditeurs de se débrouiller avec l'agenda.
On a donné des éléments, hein, Compagnie Lexanto,
les festivals,
les petites scènes,
les soirées des maisons de quartier, le festival Orgue et Musique Sacrée.
Jusqu'au 20 juin.
Il y en a, il y a de quoi faire.
C'est ça, et si vous partez en vacances, restez à l'affût également des programmations, des endroits où vous allez. Toujours des surprises, des choses à découvrir.
Eh bien,
nous dire au revoir.
On va se dire au revoir et puis
un bel été. On vous souhaite un bel été à tous.
Et le clin d'œil justement de notre extrait de film, bah il est aussi estival, Cécile.
Oui, on se dit qu'allez, ça sentait l'été. En plus aujourd'hui, le soleil brille, les oiseaux chantent et on part en vacances avec Monsieur Hulot.
Eh bien, bon mois de sortie, bonnes vacances de sortie également et nous retrouvons le 5 septembre. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, allez, je vais me casser.